Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Nous allons regarder tout ce qu'on peut faire avec les autorités du foot pour nous assurer que ce projet n'ira pas au bout, en tout cas dans la version proposée.
Et ce projet dénoncé par Boris Johnson, c'est la Super League que veulent créer 12 des plus grands clubs européens, une compétition réservée aux riches en concurrence directe avec la Ligue des Champions. Le foot business peut-il l'emporter? Dossier complet sur cette annonce qualifiée par le patron de l'UEFA de crachat au visage de tous les amoureux du football. L'offensive d'Emmanuel Macron sur le terrain sécuritaire à un an de la présidentielle, le chef de l'État s'est rendu dans un quartier sensible de Montpellier pour défendre sa stratégie, 10 000 policiers de plus d'ici 2022. Il a incarné les trois premières années du quinquennat du chef de l'État. Édouard Philippe était ce soir l'invité exceptionnel de Michel Denisot sur Europe 1. L'ancien Premier ministre s'est confié sur sa relation avec le président et son départ de Matignon. Nous entendrons également l'avertissement d'une épidémiologiste inquiète à une semaine de la réouverture des écoles alors que le troisième confinement tarde à produire ses effets. Dans ce journal également, l'hospitalisation de l'opposant russe Alexei Navalny sous la pression internationale, l'appréhension de Thomas Pesquet à quelques jours de son deuxième décollage pour l'espace, et puis une première historique, Mars, survolée par un petit hélicoptère. La météo, elle sera plus nuageuse demain, avec sur la moitié nord des averses fréquentes, mais les températures vont continuer à grimper dans l'après-midi, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en légère hausse, plus 0,15% à 6 296 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview éco, dans 20 minutes, plus de 100 000 salariés de la restauration et de l'hôtellerie pourraient manquer à la réouverture. Ils ont changé de voie et c'est une pénurie de main-d'œuvre qui se profile. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Didier Chenel, président du GNI qui regroupe les restaurateurs et hôteliers indépendants. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un séisme qui secoue la planète foot. 12 des plus grands clubs européens ont donc annoncé aujourd'hui qu'ils allaient faire bande à part en lançant entre eux une nouvelle compétition, la Super League. Et parmi les instigateurs de ce projet, on trouve le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin ou encore Manchester United, que des superpuissances du ballon rond. Et signe que le sujet est explosif, les réactions dépassent allègrement le monde du sport, même les chefs d'État s'en mêlent, à l'image d'Emmanuel Macron qui a salué tout à l'heure la position des clubs français de refuser de participer à cette Super League. Elle menace le principe de solidarité et le mérite sportif selon le chef de l'État. Même réaction de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, particulièrement concerné puisque 6 des 12 clubs frondeurs sont anglais.
Nous allons regarder tout ce qu'on peut faire avec les autorités du foot pour nous assurer que ce projet n'ira pas au bout, en tout cas dans la version proposée. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les fans ni pour le football anglais. Ces grands clubs ont une histoire liée à des territoires, à des villes, à des communautés locales, et ça doit continuer ainsi. Voilà pourquoi je n'aime pas ce projet de Super League et nous allons réfléchir à ce qu'on peut faire.
Simon Rubin du service des sports nous a rejoint. Simon, on vient d'entendre les réserves de Boris Johnson. Expliquez-nous quel est l'intérêt de ces grands clubs à ne vouloir jouer contre eux.
Eh bien, c'est évidemment l'argent hein, avec cette Super League. Pas de place pour les petits. On ne garde que les clubs les plus connus pour n'avoir que des matchs prestigieux et donc des recettes en hausse. La Super League table sur 3,5 milliards d'euros de revenus à répartir entre les 20 participants. Chaque club gagnerait à peu près 4 fois plus hein, que ce que touche le vainqueur de l'actuelle Ligue des Champions.
Et en quoi cela pose problème, cette compétition concurrente de la Ligue des Champions, Simon ?
C'est l'idée de l'universalité du foot hein, qui est battue en brèche. Ce ne serait plus à proprement parler une compétition européenne, hein, mais avec seulement 3, 4, voire 5 nations représentées. Cela reviendrait à créer en fait un autre football, un foot pour les riches, pour les clubs puissants, sans possibilité hein, pour les petits clubs méritant d'avoir leur chance.
Dernière question, Simon, est-ce que ce projet de Super League a des chances d'aboutir ?
Oui, oui, oui. Alors on a un précédent, c'est le basket qui a fait exactement la même chose. Hein. Les grands clubs ont réussi à créer leur propre ligue. Ceci dit, pour le foot, on a entendu Boris Johnson. Hein. Les oppositions, vous le disiez, elles sont nombreuses. Supporters politiques, clubs qui soutiennent cette vieille Ligue des Champions, le PSG et le Bayern de Munich en tête. Le patron de l'UEFA, on en a parlé, évoque un crachat au visage des fans de foot. Plus important sans doute, un grand diffuseur britannique, la chaîne BT Sport, annonce qu'elle s'oppose à ce projet. On sait que la diffusion télé, c'est le nerf de la guerre. Alors attention, faut pas être naïf, hein, si les clubs puissants lancent cette Super League, c'est en sachant très bien qu'ils vont perdre des fans, hein, que les supporters purs et durs vont s'y opposer, mais en sachant aussi qu'il pourrait gagner d'autres spectateurs plus jeunes qui ne s'intéressent qu'aux grosses équipes, qui sont fans des clubs, non pas à cause de leur histoire, mais parce qu'il y a des grandes stars qui y jouent. Cette Super League, en fait, elle cadre très bien avec ce foot mondialisé qui cherche à capter un public plus jeune, bien au-delà des frontières de l'Europe.
Merci beaucoup Simon Rubin pour ces explications.
Écoutez le monde changer. Europe Soir, le 22-22-30.
354, c'est le nombre de jours qui nous sépare du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, un peu moins d'un an donc, et cela n'a évidemment pas échappé à Emmanuel Macron qui a lancé ces dernières heures une offensive pour défendre sa stratégie sécuritaire, avec tout d'abord un entretien dans le Figaro dans lequel le chef de l'État assure notamment que l'objectif de 10 000 forces de l'ordre supplémentaires sera tenu d'ici la fin de son quinquennat. Offensive également sur le terrain, le président s'est rendu aujourd'hui à Montpellier pour visiter un commissariat. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu sur un ancien point de deal dans un quartier sensible, Hélène Terzian.
Oui, le président veut là aussi illustrer concrètement ce qu'il a déclaré ce matin dans le Figaro et ce qu'il a répété aujourd'hui. Tout le monde a le droit à une vie paisible. Alors, une fois arrivé dans ce quartier théâtre, il y a encore un mois d'une opération de démantèlement d'un point de deal, il s'est offert un bain de foule dans une atmosphère bon enfant.
Ouais, monsieur.
On ne veut pas qu'il traîne dans la rue.
L'efficacité d'une politique de démanteler justement des points de deal. Et puis il y a un partenariat là qu'on est en train de construire avec la ville qui est très efficace. Mais on met des moyens et on a des résultats.
Le président a ensuite pris du temps pour échanger, notamment avec une mère de famille qui reconnaît une présence accrue de la police pour mieux protéger les jeunes contre le trafic de drogue.
Là récemment, on a eu un incident, oui, qui est allé jusque dans l'école. Les familles sont extrêmement rassurées de voir la police régulièrement aux abords de l'école.
Il faut que vous sachiez que c'est un travail commun hein, entre les services de l'État, les services institutionnels.
Oui.
Voilà. La mairie de Montpellier.
Un déplacement du président qui s'achève avec une visite à la CAF pour montrer le travail des associations locales qui favorisent le lien police-population. Le président accueilli toutefois par les huées de centaines de manifestants criant « Macron démission ».
Hélène Terzian à Montpellier pour Europe 1. Emmanuel Macron qui n'a probablement pas manqué d'écouter notre antenne à son retour de Montpellier. Et pour cause, son ancien Premier ministre Édouard Philippe s'est confié pendant une heure à Michel Denisot. Entretien exceptionnel à la mairie du Havre au cours duquel l'ancien chef du gouvernement est revenu sur sa relation avec le président et son départ de Matignon.
Vous racontez dans votre livre la façon dont vous avez quitté le gouvernement après 3 ans, 1 mois et 18 jours, si j'ai bien compté. Est-ce qu'on peut considérer que l'amour dure 3 ans et que le 1 mois et 18 jours a peut-être été un peu trop quand on lit tous les détails de ce qui s'est passé à ce moment-là entre vous et le président de la République, vous n'aviez pas forcément le même point de vue.
D'abord, le fondement de la relation entre un Premier ministre et un président, ce n'est pas une relation d'amitié ou une relation d'amour. C'est une relation de confiance et de travail. Et de bon travail, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait. J'en suis parfaitement conscient. Enfin, on a fait beaucoup de choses aussi et j'en suis aussi assez fier. Ensuite, il y a une prérogative qui est une prérogative absolue du président de la République. Qui est le signe de sa prééminence au sein des institutions. Il choisit son Premier ministre. Quand il a envie d'en changer, il en change.
Les confidences d'Édouard Philippe au micro de Michel Denisot, entretien à retrouver en intégralité sur notre site europe1.fr. Notez que Xavier Bertrand sera demain matin l'invité de la matinale d'Europe 1. Le président de la région Hauts-de-France et candidat à la prochaine présidentielle répondra à partir de 8h15 aux questions de Sonia Mabrouk. Plus de masques en extérieur en Israël, cafés et restaurants qui ont rouvert aujourd'hui au Portugal, cinémas et théâtres de nouveau accessibles en Suisse. À l'heure où plusieurs pays lèvent peu à peu les restrictions, la France, elle, en est encore loin. 5 970 malades du Covid sont ce soir en réanimation, un niveau qui stagne, tout comme le nombre de contaminations, et ce, malgré les mesures mises en place depuis 2 semaines. Voilà pourquoi une réouverture progressive des terrasses et de certains lieux culturels à la mi-mai, voulue par Emmanuel Macron, semble hautement improbable pour Dominique Costagliola. D'autant que les écoles primaires vont rouvrir la semaine prochaine et que rien n'a été fait pour limiter la circulation du virus, estime l'épidémiologiste invité ce soir du 18-20 de Julien Bugier.
Toujours pas des mesures de diminution des risques à l'école, pas de choses claires non plus sur la vaccination des personnels. Pas de choses sur l'aération, pas de choses sur les demi-groupes, y compris à l'école primaire. Pas de plan sur l'utilisation, par exemple, des tests salivaires de façon régulière, comme on le fait dans plusieurs pays.
Oui.
On l'avait aussi dans les universités aux États-Unis depuis déjà longtemps.
Donc on fait n'importe quoi.
Ah ben, ça, pour moi, je ne comprends pas pour l'école, parce que je suis d'accord avec le principe qui consiste à dire qu'il faut au maximum les laisser ouvertes.
Oui.
Mais à ce moment-là, il faut absolument investir pour diminuer le risque.
Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'INSERM, au micro de Julien Bugier. Notez que l'application Tous Anti-Covid va se muer en passe sanitaire numérique. Une nouvelle fonctionnalité va permettre d'intégrer les résultats de vos tests de dépistage et plus tard les certificats de vaccination. Le gouvernement s'apprête à lancer l'expérimentation dans les tout prochains jours. Mia, la fillette de 8 ans enlevée par plusieurs hommes la semaine dernière dans les Vosges, a pu retrouver aujourd'hui sa grand-mère dans un lieu tenu secret. La petite fille a été retrouvée ce week-end dans un squat en Suisse avec sa mère, soupçonnée d'avoir commandité le kidnapping de sa fille. Et on apprend par ailleurs ce soir qu'un Français de 55 ans habitant en Malaisie aurait financé l'opération. Il s'agit d'un homme bien connu de la sphère conspirationniste et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Alexei Navalny a été hospitalisé aujourd'hui après 3 semaines de grève de la faim en prison à la suite des multiples alertes de ses proches pour qui il peut mourir d'une minute à l'autre. L'opposant russe a été admis dans l'hôpital de la colonie pénitentiaire où il est incarcéré, mais cela ne suffit pas aux yeux des pays occidentaux, Damien Mestre.
Oui, l'Union européenne continue de mettre la pression sur le Kremlin. Les ministres des Affaires étrangères étaient justement réunis aujourd'hui pour évoquer le cas d'Alexei Navalny. Ils demandent à ce que l'opposant russe ait un accès immédiat à des médecins, mais que ces médecins soient des personnes en qui il a confiance. Il faut dire que déjà des voix s'élèvent en Russie. Elles mettent en doute la sincérité de cette hospitalisation. Les alliés de l'opposant qui rappellent qu'Alexei Navalny serait toujours, vous l'avez dit, entre la vie et la mort. Mais du côté du pouvoir russe, on balaye ces critiques. L'état de santé de l'opposant est jugé satisfaisant. Il a même reçu un traitement à base de vitamines, indique-t-on. Mais surtout, le porte-parole du Kremlin s'en est pris ce midi directement aux pays occidentaux qui réclamaient une hospitalisation. Il indique, je cite, « Nous ne pouvons pas accepter de telles déclarations de la part de représentants d'autres gouvernements. »
Damien Mestre pour Europe 1. La France porte une lourde responsabilité dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Conclusion d'un rapport commandé par Kigali à un cabinet d'avocats américains. Les auteurs de cette enquête estiment que Paris savait qu'un génocide se préparait, mais a continué à apporter un soutien indéfectible au régime Hutu.
Europe Soir, Julien Pierce.
Allez, prenons un peu de hauteur maintenant, un peu, je dirais même beaucoup, altitude 400 km au-dessus de la Terre, là où se trouve la Station Spatiale Internationale que s'apprête à rejoindre Thomas Pesquet pour la deuxième fois. Décollage jeudi depuis Cap Canaveral en Floride pour une mission de 6 mois. Alors on pourrait croire que l'astronaute français est plus détendu, plus à l'aise que la dernière fois en 2016. Eh bien non, il appréhende même un peu cette mission, écoutez.
Je pense que le deuxième séjour, il est plus difficile que le premier. Physiquement, peut-être pas, parce que j'ai l'impression d'être dans la meilleure forme de ma vie en ce moment, même si je suis un peu plus vieux, évidemment quelques années en plus que la dernière fois. Mais par contre, mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, parce qu'on est capable de le comprendre, mais on ne sait pas exactement à quel point, on ne sait pas exactement quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Hein. Et puis, la situation sur Terre, enfin la pandémie de Covid n'a pas rendu l'entraînement facile, a fait que on s'est retrouvé très isolé nous-mêmes pendant l'entraînement. Hein, donc on se prépare à quitter nos proches, à quitter la Terre pour 6 mois. Et malheureusement, ça fait déjà presque un an qu'on est quasiment en isolation, donc ça, c'est pas génial non plus. Mais bon, évidemment, quand on va dans l'espace, on peut pas se plaindre.
Eux non plus n'ont aucune raison de se plaindre. Eux, ce sont les ingénieurs de la NASA qui ont explosé de joie à la mi-journée. Ils ont réalisé un exploit à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de nous, le premier vol d'un hélicoptère sur Mars. Ingenuity, c'est son petit nom, ressemble certes davantage à un drone qu'à un hélicoptère, mais c'est la toute première fois qu'un engin motorisé vole sur une autre planète que la Terre, Lord Autriche.
Oui, exactement. L'hélicoptère a volé pendant 40 secondes à 3 mètres de hauteur. Une courte vidéo prise par le robot au sol montre l'engin en train de faire du surplace puis de se poser à la surface de Mars. L'hélicoptère a lui-même envoyé une photo en noir et blanc montrant son ombre sur la planète rouge. Les Américains voulaient montrer qu'il est possible de voler à la surface de Mars. Alors c'était un défi parce que l'air martien est 100 fois moins dense que sur Terre et c'est en faisant tourner les pales de l'hélicoptère extrêmement vite que l'engin a pu se soulever. D'un point de vue scientifique, cela pourrait être utile à l'avenir, explique Gabriel Pont, ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
Après, on peut imaginer des vols motorisés à la surface de Mars pour faire des mesures de la composition du sol, par exemple, mais à des endroits très éloignés par rapport aux endroits qui nous sont accessibles avec les rovers aujourd'hui.
Dans les prochains jours, d'autres vols de cet hélicoptère auront lieu, en particulier jusqu'à 5 mètres de hauteur, probablement. La NASA veut faire d'autres tentatives en augmentant la difficulté pour voir, d'une certaine façon, jusqu'où il est possible d'aller techniquement.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. La météo sur Terre et non sur Mars, Anissa Haddadi, au programme demain, un soleil souvent voilé.
Oui Julien, dès le lever du jour, le temps est sec, ensoleillé sur une grande partie du pays. Mais attention, ce soleil est souvent voilé, en particulier sur le grand quart sud-ouest où là les nuages sont même menaçants. Attention demain matin sur les Hauts-de-France, les Ardennes, le Val-de-Saône, sur les régions qui se situent au nord de la Loire, nous aurons beaucoup de brouillards matinaux. Et puis dans l'après-midi, sur les Pyrénées, les nuages deviennent de plus en plus épais avec des averses et une limite pluie-neige située à 1800 mètres d'altitude. Dans le sud, le vent d'OTAN se lève et souffle jusqu'à 40 km/h. Plus au nord, sur le Massif central, la Bourgogne, les Hauts-de-France et la Basse-Normandie, nous aurons des averses assez fréquentes demain après-midi. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec un léger risque de gelée matinale. Nous aurons moins 1 degré à Charleville-Mézières, 2 degrés à Saint-Étienne et Rouen, 4 à Périgueux et Lille, 7 degrés pour Paris et Perpignan et 9 à Tarbes. Au meilleur de la journée, 10 degrés pour Dunkerque, 14 à Cherbourg, 16 à Nice, Caen et Belfort, 17 degrés à Brest, 18 à Paris, Bordeaux et Marseille et 21 degrés pour Avignon.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview éco. Plus de 100 000 salariés de la restauration et de l'hôtellerie pourraient manquer à la réouverture et ils ont principalement changé de voie et c'est une pénurie de main d'œuvre qui se profile. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Didier Chenel, président du GNI qui regroupe les restaurateurs et hôteliers indépendants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
La bourse de New York démarre la semaine en baisse. Les investisseurs prennent quelques bénéfices après les records de la semaine dernière.
Oui, le Dow Jones a battu un nouveau record historique. Il reprend donc son souffle ce soir, moins 0,35%. 34 082 points. Le Nasdaq aussi calme le jeu. Repli de 1% à 13 914 points. Du côté des valeurs, le titre Tesla a été chahuté. Il perd plus de 3% en réaction à un accident mortel impliquant un de ses véhicules électriques samedi soir au Texas. Apple résiste un peu mieux, plus 0,5%. Le groupe devrait présenter demain de nouveaux produits, notamment de nouvelles tablettes iPad. Petite hausse pour Coca-Cola, plus 0,6% après ses résultats financiers. Et puis Manchester United qui cote à New York est en forte hausse, plus 6,8%. Le club anglais bénéficie de l'annonce de la création, vous en parliez dans le journal, d'une Super Ligue européenne de football.
Le CAC 40 rate de très peu ce soir la barre symbolique des 6300 points. Il est tout de même au plus haut niveau depuis 20 ans. Hein.
Voilà, on est tout près des 6300 points. 6296 points ce soir, grâce à un très léger gain de 0,15%. C'est la cinquième séance consécutive de progression. Actualité très calme aujourd'hui, mais ça va s'accélérer cette semaine avec beaucoup de résultats financiers d'entreprises. Worldline, Vinci ou encore Carrefour vont rendre leurs copies cette semaine et leurs titres sont en nette hausse. Ce soir, les investisseurs tablent donc plutôt sur de bonnes surprises.
Et puis l'équipementier automobile Faurecia a publié aujourd'hui son chiffre d'affaires trimestriel.
Voilà, Faurecia a confirmé ses objectifs pour 2021. Ses ventes ont progressé un peu moins que la production automobile mondiale. Le titre perd 3,8%, mais tout le secteur automobile est dans le rouge ce soir, plombé encore par la pénurie de puces électroniques. Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. À Londres, le FTSE recule de 0,3%, moins 0,6% pour Francfort, moins 0,2% pour Milan. En revanche, Madrid bondit de plus de 1%. Et à Paris, c'est du vert aussi pour le CAC 40, plus 0,15%, 6296 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à demain Claire. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Didier Chenet.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté une nouvelle fois l'invitation d'Europe 1. On vous sollicite souvent, Didier Chenet. Vous êtes le patron du GNI qui regroupe des restaurateurs et des hôteliers indépendants. Mais si on vous appelle encore ce soir, c'est parce qu'il y a une étude qui m'a tout simplement impressionné. Une étude qui est parue aujourd'hui, qui a été commandée par vos services du GNI, mais également des autres organisations qui représentent le monde de la restauration et le monde de l'hôtellerie. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ? C'est qu'il y a plus de 100 000 salariés qui pourraient manquer à la réouverture. Un salarié sur six manquerait, notamment parce que ces salariés ont découvert une nouvelle vie. C'est ça l'idée ?
Mais bien sûr, c'est toute la difficulté que nous allons avoir lorsque nous allons rouvrir, et notamment avec le personnel qui est resté chez nous, qui nous reste fidèle, c'est qu'ils ont pris, ils vivent une vie différente. Vous savez qu'une très grande majorité de nos professionnels ont démarré leur vie à 18 ans, à peu près 18-20 ans, et n'ont jamais connu une autre vie, une autre organisation de vie que leur vie professionnelle, rythmée par les repas du midi et du soir, les prestations de midi et du soir, voire du dimanche, le week-end, voire pour les traiteurs organisateurs de réception, évidemment toutes les fêtes qui peut y avoir tout au long de l'année. Donc, toute leur vie personnelle s'est organisée autour de cette vie professionnelle.
Et là, ils ont découvert, pardonnez-moi l'expression, que grâce au Covid, il y avait une vie aussi sympa sur leurs heures de travail. C'est ça l'idée.
Mais oui, bien sûr, ils ont découvert qu'il y avait une autre vie et que leur vie personnelle ne devait pas forcément tourner autour de leur vie professionnelle. Et donc, préférant aujourd'hui avoir leur vie professionnelle se diriger, leur activité, leurs ambitions.
Mais soyons concrets, c'est ce qui vous remonte, vous, hein, je rappelle que vous représentez des restaurateurs, des hôteliers indépendants. Vos membres vous disent, je ne sais pas comment je vais pouvoir potentiellement rouvrir parce que ça pourrait, notamment pour les bars et restaurants, peut-être repartir très fort, très vite, mais je n'ai pas assez de personnel. J'ai plusieurs membres de mon équipe qui me disent que ils ont profité de cette crise pour faire quoi ? Pour faire une formation ? Pour aller vers d'autres métiers ?
Alors, oui, une formation, mais bon, on n'en est pas quand même à l'inquiétude, je dirais, à ce point-là. C'est lorsque nous serons en pleine capacité que nous risquons d'avoir effectivement des difficultés avec un manque de personnel. Pour l'instant, vu que les réouvertures vont se faire de façon progressive, nous ne serons pas confrontés à ce problème-là, mais de manque de personnel. Au début. Mais par contre, nous serons confrontés, et c'est pour ça que nous avons demandé au gouvernement un délai de prévenance de 3 semaines, nous serons confrontés à la réadaptation de notre personnel, formation à nouveau de notre personnel. Nous sommes un métier de geste, le métier d'accueil aussi, tout ça, ça ne se fait pas n'importe comment.
Oui, mais là, dans ce que j'entends, Didier Chenet, on est plus que dans de la formation, on est dans retrouver l'envie d'être dans un métier si compliqué et, disons-le franchement, parfois pas très bien payé quand même.
C'est tout notre travail. Comment remotiver les troupes, si j'ose dire. C'est tout le travail qui nous attend. Mais effectivement, nous sommes parfaitement conscients que nous allons avoir un certain nombre de difficultés auxquelles il va falloir faire face, et notamment concernant ce personnel.
Mais là, typiquement, vos membres, ils sont en train de reprendre contact avec du personnel hein, qui parfois n'a pas travaillé depuis 6 mois, puisque vous avez bénéficié de l'activité partielle. J'imagine que le lien n'a jamais été totalement perdu. Mais là, de leur dire, voilà, est-ce que tu es prêt à retravailler ? Sur quels horaires ? Comment on fait ?
Alors, d'abord, vous avez raison, tous les liens n'ont pas été perdus. Et puis, deuxièmement, effectivement, c'est une autre vision de l'organisation du travail, avec une écoute particulière, et effectivement, poser des questions donc à un certain nombre de nos salariés. Comment envisagent-ils, je dirais, leurs heures de travail ? Est-ce que il faudra aller vers uniquement pour certains midi, pour d'autres ce sera uniquement le soir ? Est-ce que l'on va continuer avec ce système de la coupure qui veut que quelqu'un travaille à midi, puis aille se reposer, puis revient travailler le soir ? Est-ce que le week-end ? Est-ce que oui, c'est tout un tas de questions et tout un tas de réponses qu'il va falloir que nous trouvions.
Donc il va falloir aller vite là-dessus. Puis là, on parle à la rigueur du personnel en CDI qui est en activité partielle depuis des mois. Mais votre activité, elle utilise beaucoup de gens qui sont des saisonniers, qui sont des extras, oui, qui viennent prêter main forte quand il y a besoin dans des coups de bourre. Et bien eux, typiquement, ils n'ont pas eu les mêmes dispositifs d'aide. Donc il a bien fallu qu'ils trouvent quelque chose à côté. C'est aussi tout cela qui vont manquer à l'appel.
Oui, mais justement, je pense que n'ayant pas eu d'aide, peut-être certains ont retrouvé donc d'autres activités. Et puis pour d'autres, ben, ils seront bien contents de venir, je dirais, arrondir encore un petit peu plus leur fin de mois. Mais vous avez raison, les saisonniers représentent 300 000 saisonniers par an pour ce qui concerne notre secteur. Donc ce n'est pas mince.
Ce n'est pas mince. Alors, ce qui est quand même intéressant, là, ce qu'on est en train de faire, Didier Chenet, c'est quasiment la première fois qu'on est en train, depuis 6 mois, de parler de réouverture. Cette fois, vous y croyez ? Vous pensez vraiment que mi-mai, les terrasses vont ouvrir, les restaurants seront peut-être à demi-jauge quelques semaines plus tard ?
Non seulement on y croit, mais on veut s'en convaincre. Cette fois-ci, on peut plus reculer. On nous a annoncé tellement de dates. Cette fois-ci, par 2 fois, le président de la République nous l'a annoncé. Donc nous voulons y croire et nous nous préparons effectivement pour que on puisse enfin, j'allais dire, être libérés tous, que ce soit nous, que ce soit nos clients. Alors est-ce que tout ça se fera...
Mais qu'est-ce que vous dit le gouvernement ? Parce que les chiffres ne sont toujours pas bons, hein, du côté de l'épidémie, ils sont même encore très mauvais. Qu'est-ce qu'on vous dit là, en off comme on dirait ? On vous dit, vous inquiétez pas, mi-mai cette fois on tient la date ou il y a quand même un mai ?
Alors... Mi-mai tient la date, tient la route, tient la corde, mais par contre, est-ce que ce sera sur toute la France ? Ça, nous n'en avons pas la certitude, puisque le gouvernement a parlé de territorialisation. C'est un peu ce qui s'était fait l'année dernière, hein. Donc tout ça, je dirais, ne nous fait pas peur, mais la semaine qui vient, les 8-10 jours qui viennent vont être pour nous cruciaux, puisque nous devons avoir des rendez-vous avec le gouvernement pour analyser les phases, quelles sont les conditions donc d'ouverture pendant ces phases, quel est le délai que l'on met entre chaque phase de réouverture.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Didier Chenet, qui est le président du Groupement National des Indépendants, qui regroupe des restaurateurs et des hôteliers. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayac. Vous nous parlerez de la vaccination et des autotests en pharmacie avec votre invité Jean Fabre, président de PharmaVie, un des plus gros réseaux de pharmacie en France. Restez avec nous, dans un instant on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite.
La Libre Antenne d'Europe 1 est à votre écoute dans quelques instants. La Libre Antenne, c'est votre moment d'écoute, de partage et de confidence.
Pour joindre Olivier Delacroix, appelez dès maintenant le 3921, 50 centimes la minute.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux qui sont nombreux à revenir sur la création de cette Super League qui divise tant le monde du football. Séisme au pays du foot business, titre Les Échos. L'argent fait tourner les têtes, le football européen se déchire, peut-on lire en une de West France. L'humanité y voit le stade suprême du foot business. Les riches veulent faire foot à part, ajoute Libération. Au moins 12 de ces clubs sécessionnistes ont l'honnêteté de jouer carte sur table, analyse Jérôme Chapuis dans La Croix. Il justifie la décision d'organiser leur propre compétition fermée par le fait qu'elle générerait des ressources supplémentaires, près de 3,5 milliards d'euros dès la première compétition, contre 2 milliards pour l'actuelle Ligue des Champions. Mais c'est une fable dépourvue de morale, tant elle concentre tous les excès du sport business, écrit l'éditorialiste qui conclut ainsi. Ce serait un comble qu'une année de matchs à huis clos pour cause de pandémie débouche sur un championnat européen en circuit fermé. Le foot ne tourne plus rond, ajoute pour sa part Yves Tréhard dans Le Figaro. Mais il n'y a pas que du foot. Demain, à la une de vos journaux, Libération s'intéresse au tournant sécuritaire lancé aujourd'hui par Emmanuel Macron. Le petit Nicolas, c'est ainsi que titre Libé, pour qui le chef de l'État reprend la rhétorique sarkozyste à un an de la présidentielle. Il y a bien sûr ses promesses qui rappellent l'ancien chef de l'État, plus de policiers, plus de places de prison. Mais il y a aussi cette critique qu'Emmanuel Macron au sujet de la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Sarah Halimi, affaire qui n'aboutira pas à un procès. Le président dit souhaiter un changement de la loi pour que la prise de stupéfiants ne supprime pas la responsabilité pénale. Or, là aussi, il y a un air de déjà-vu, écrit Libération. En 2007, après un non-lieu prononcé pour le meurtre d'une aide-soignante et d'une infirmière par un malade à l'hôpital psychiatrique de Pau, Nicolas Sarkozy proposait déjà de juger les criminels déclarés irresponsables. Légiférer sous le coup de l'émotion, un fait divers, une loi, c'est un mécanisme bien connu, surtout en pré-campagne électorale, conclut l'article de Libé.